Je vous mets ici, ça va ? Ça vous embête pas ? On y va ?
Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien ?
Ça va, ça va.
Nous sommes ravis de vous accueillir ici, donc dans cette nouvelle salle qui s'appelle... Vous m'entendez, monsieur ? À peine, hein ? D'accord, donc cette salle qu'on appelle la salle Le Nôtre, c'est dorénavant ici qu'auront lieu donc, toutes les conférences de la Société des Amis de Versailles. Donc sachez qu'il n'y aura plus de conférences à la salle des colonnes, donc à la Grande Écurie, pour la simple et bonne raison que maintenant les locaux de la Grande Écurie appartiennent à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, voilà, qui a pris possession des lieux. Alors, ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Nathalie Collat-Desfranc, historienne spécialiste du XVIIIe siècle. Alors, Madame Collat-Desfranc nous fait l'honneur ce soir de nous présenter son ouvrage consacré à Madame de Polignac, la vie intime de Marie-Antoinette. Alors, de mémoire, il n'existe pas d'autres ouvrages biographiques sur le sujet, c'est donc une œuvre sans précédent et un pari de taille, puisque ici, là, vous nous offrez un regard sur ce personnage de l'histoire. C'est un regard nouveau sur ce personnage de l'histoire qui demeure méconnu et, il faut le dire, relativement impopulaire. Voilà, je vous laisse la parole. Juste une dernière chose, donc à la fin de la conférence, on pourrait vous procurer donc, l'ouvrage de Madame Collat-Desfranc et le faire dédicacer donc, par l'auteur. Merci de votre conférence.
Bonsoir mesdames, messieurs. Est-ce que vous m'entendez bien ?
Non ?
Comme ça ? Plus fort. Bon, je vais tâcher de parler plus fort. Je vous remercie d'être venu m'écouter ce soir. Et bien sûr, je remercie les amis de Versailles de m'avoir invité à venir vous parler de Madame de Polignac. Alors, l'amitié de Madame de Polignac pour Marie-Antoinette était-elle sincère ? Son influence a-t-elle été néfaste à la reine ? Les Polignac se sont-ils mêlés de politique ? Et quelles sont leurs responsabilités dans les événements qui se précipitent et qui vont amener la révolution en France ? Madame de Polignac et Marie-Antoinette sont les femmes les plus détestées et les plus calomniées du royaume à la veille de la Révolution. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Alors, après Louis XV et Louis XIV, Louis XVI est un roi atypique, dans ce sens qu'il n'a pas de maîtresse, il n'a pas de favorite, il n'en aura pas de, durant tout son règne. Et donc, Madame de Polignac, parce que presque du jour au lendemain, elle devient l'amie et la confidente de la reine, va endosser finalement le rôle de favorite royale. Et c'est un rôle extrêmement ingrat et difficile de punching ball, on pourrait dire, de la cour et de la ville, et le réceptacle de tous les mécontentements. À son avènement, Louis XVI offre à Marie-Antoinette le petit Trianon. Certainement pas avec la jolie déclaration apocryphe « Madame, vous aimez les fleurs, je vous en offre un bouquet ». Pourquoi ? Parce que Louis XVI ne sait pas tourner le madrigal et qu'il ignore même les douceurs de la conjugalité. Ah, je pense que si je penche le micro, oui, c'est mieux. Alors voilà, j'essaie, comme ça, ça ne va pas, et comme ça, c'est mieux. Bon, très bien. Alors, Louis XVI réprouve le renversement des alliances qui avaient été voulues par Louis XV, Choiseul, l'abbé de Bernice, Madame de Pompadour. Et en fait, il accueille sa femme, Marie-Antoinette, comme une ennemie, comme elle est la garante de cette alliance qu'il n'a pas voulu et qui est scellée par leur mariage. En fait, il a été conditionné par le duc de la Vauguyon, son précepteur, pour se défier des femmes en général et de la sienne en particulier. Ce qui, au début, évidemment, ne va pas faciliter du tout les rapports. en lui offrant Trianon, il l'éloigne du cabinet des ministres. Il l'éloigne également du tandem que forme l'ambassadeur d'Autriche en France, le comte de Mercier-Argenteau, et l'abbé de Vermont, le lecteur de la règle, tous deux placés auprès de Marie-Antoinette par Marie-Thérèse pour la surveiller, l'encadrer, la guider, l'espionner et évidemment la diriger au mieux, la manœuvrer pour les intérêts de l'Autriche. On croit faussement que la seule et la véritable amie de Marie-Antoinette était Madame de Lamballe, qui évidemment a été sanctifiée par son martyr, et qui a été effectivement une excellente amie de Marie-Antoinette, qui ne s'en détache d'ailleurs pas, mais qui la délaisse et lui préfère Madame de Polignac. Et pourtant, Madame de Polignac, le surlendemain de la prise de la Bastille, est la première à quitter Versailles et à sortir de France. En effet, le soir du 16 juillet 1789, ce sont les adieux de Madame de Polignac au couple royal, dans un déluge de plaintes, de pleurs, de soupirs. Elles ont toutes les deux le cœur certainement déchiré de se quitter, et Madame de Polignac est habillée comme une robe de chambre. Le duc de Polignac prend l'identité d'un négociant de Bâle. Il a des faux papiers. Il a un passeport signé de la main du roi. Et Monsieur Campan, le secrétaire particulier de Marie-Antoinette, se tient auprès de la voiture jusqu'à son départ pour s'assurer de celui de Madame de Polignac. À minuit, on apporte un petit billet griffonné par la reine et que nous connaissons tous, n'est-ce pas ? Adieu la plus tendre des amies, ce mot est affreux mais il le faut, voilà l'ordre pour les chevaux, je n'ai plus la force de vous embrasser. Alors, Madame de Polignac se résout à partir, ne se résout à partir que parce que l'ordre vient du roi et de la reine. Pourquoi ? Parce que sa tête est mise à prix au café du Caveau, au Palais Royal, sous les arcades du Palais Royal, et elle est brûlée en effigie à Paris et à travers la France, ainsi d'ailleurs que le comte d'Artois, le jeune frère du roi, et elle s'enfuit, poursuivie par la haine générale. Les libelles et les pamphlets ont fait d'elle, enfin les gravures obscènes, ont fait d'elle dans l'opinion publique une gueuse, un monstre odieux vomi par les enfers et qui vampirise la nation, tout simplement. Elle est responsable de tous les maux du royaume et j'ajouterais presque des sept plaies de l'Égypte. Comment a-t-on pu en arriver là ? Tout avait pourtant commencé presque comme un conte de fées, en apparence toutefois. Et à Versailles, les apparences sont trompeuses. Tout y est faux semblant et hypocrisie. Quand elle y est arrivée, promise par son mariage au trône du plus beau royaume d'Europe, tous les rêves de Marie-Antoinette se sont écroulés. Mais déjà réactive et combative, faute de bonheur, Marie-Antoinette recherche le plaisir dans un tourbillon de dissipation pour tromper son ennui et ses frustrations. Faute d'être aimée par un mari bougon et renfrogné, en tout cas les premières années de leur mariage, elle cherche à plaire et ce sont des dépenses folles en toilette, en coiffure, en bijoux, colifichés. Parce qu'elle a, je vais voir de temps en temps, si vous permettez. Parce qu'elle aspire à un peu d'affection, elle cherche consolation dans l'amitié. En 1775, un soir d'été, son beau-père emmène Madame de Polignac à un bal de la reine. Il fait une chaleur étouffante, des messieurs sont là, debout, qui font le pied cru, sans danser, et la reine les prie un peu vertement de sortir. Les dames s'offusquent du ton de Marie-Antoinette, elles commencent une bouderie, et cessent de danser aussi. Et à ce moment-là, à la stupéfaction générale, Madame de Polignac prend la parole et fait remarquer à Marie-Antoinette sa maladresse certainement bien involontaire. La reine est toute confuse et en convient, elle s'excuse et les gens reviennent dans les cabinets et l'on se remet à danser. Marie-Antoinette avait déjà plusieurs fois jeté son dévolu sur des dames de la cour, mais sans jamais se satisfaire de relations qui restaient guindées et protocolaires. Ce sont les naturels, le naturel et la simplicité, la spontanéité de Madame de Polignac qui font subitement la différence avec toutes les dames qui ont été des amies jusqu'à présent pour Marie-Antoinette, y compris Madame de Lamballe. C'était des relations qui restaient de reine à sujette. Or, Madame de Polignac ne ressemble à personne à la cour. Elle a une espèce d'ingénuité, de fraîcheur, qui étonne et qui surprenne, et qui charme la reine. La reine lui demande, s'enquiert de son nom, et s'étonne de ne pas la voir plus souvent à la cour. Et elle lui réclame de venir, et plus souvent elle l'a pris à dîner, dès le lendemain, c'est le marquis de Barrois qui l'explique. Et Madame de Polignac est assez rétive aux avances que lui fait la reine, et comme me disait mon ami tout à l'heure, elle est un peu effarouchée par cette faveur qui subitement fond sur elle, et cette reine qui veut en quelque sorte la retenir un peu contre son gré, un peu de force à Versailles, et qui va jusqu'à lui proposer des charges de cour pour la fixer à Versailles. Alors ce sont dames d'honneur ou dames d'atour, et Madame de Polignac refuse toutes les charges que Marie-Antoinette lui propose parce qu'elle a un caractère indolent, nonchalant, parce que surtout elle tient par-dessus tout à sa tranquillité. Et donc, voilà, Madame de Polignac, quand même, que l'on remarque, et surtout, évidemment, le comte de Mercier-Argenteau, qui s'en irrite, bien entendu, qui fait des rapports à Marie-Thérèse, et Marie-Thérèse également, tout à fait contrariée, qu'est-ce que c'est subitement que cette petite comtesse qui vient et qui, finalement, par l'ascendant qu'elle prend sur la reine, grignote l'ascendant que normalement Mercier-Argenteau doit absolument garder sur Marie-Antoinette. Donc, voilà où nous en sommes à ce moment-là. Et Madame de Polignac, pour expliquer qu'elle ne vient pas plus souvent à la cour et qu'elle y paraît si peu, dit à la reine que d'ailleurs, elle n'a pas les moyens de tenir son rang. Et ça, bien évidemment, ses détracteurs le porteront en exergue, en épingle, et verront là une manœuvre pour s'assurer, bien entendu, des bienfaits sonnants et trébuchants de la part de la reine et mettre en doute la sincérité de Madame de Polignac. Alors, cette sincérité, moi j'y crois. Moi j'y crois et j'en veux pour preuve que l'amitié de Madame de Polignac pour la reine ne sera jamais servile. C'est-à-dire que Madame de Polignac tiendra toujours à la reine le langage de la vérité et de la franchise, quitte souvent à la froisser, à se fâcher, et dans des situations épineuses, privées ou politiques ou publiques. Et cette amitié ne sera pas un long fleuve tranquille, au contraire, elle sera jalonnée par des querelles, des brouilles, des réconciliations. Alors, Et Yolande de Polastron, puisque Madame de Polignac est née de Polastron, n'est-ce pas, est de bonne et ancienne noblesse, mais plutôt déjà désargentée, de Guyenne. Elle naît le 8 septembre 1749 à Paris. Et là, je voudrais vous signaler une chose tout à fait extraordinaire, une coïncidence incroyable, c'est qu'elle naît le même jour que la princesse de Lamballe à Turin. C'est incroyable. Ça pourrait paraître un poisson d'avril de Wikipédia, mais non. C'est la vérité. Donc, voilà. Elle perd sa mère à 4 ans. Et son père la confie à sa sœur, la comtesse d'Andlau. Elle grandit dans ce foyer, qui est une seconde famille pour elle, et elle y grandit très heureuse. Elle y trouve des cousins, qui sont les enfants de Madame d'Andlau, Henri et Aglaé, et puis un autre cousin un peu plus éloigné, Vaudreuil, de 9 ans son aîné, et qui est autoritaire et qui prend aussitôt beaucoup d'ascendance sur elle, et qui la chaperonne et qui ne la quitte pas. Elle reçoit une excellente éducation au couvent de Panthémon, qui est situé tout près de chez la comtesse d'Andlau, au croisement de la rue Bellechasse et la rue de Grenelle, donc pas loin de Saint-Germain. Elle est très jolie, elle est ravissante. C'est une brune aux yeux bleus. Tous les tableaux de Madame Vigée-Lebrun en attestent. Nous la voyons tous très bien. Elle épouse à 17 ans le comte Jules de Polignac, un camarade de régiment que son cousin Vaudreuil, justement, a amené, a introduit chez la comtesse d'Andlau et qui est apparenté au Mazarini Mancini, c'est-à-dire le cardinal de Mazarin, le duc de Nevers, par sa mère. Et du côté de son père, les Polignac ne sont pas non plus, évidemment, inconnus à la cour, puisqu'il y a eu le très fameux cardinal de Polignac sous Louis XIV, et qu'au moment où je vous parle, au moment du mariage de la mademoiselle de Polastron avec Jules de Polignac, il y a le marquis de Polignac, qui est premier écuyer du comte d'Artois à Versailles, et qui donne d'ailleurs des leçons de géographie à Zamor, le petit esclave de Madame du Barry. Donc, vous voyez, il y a déjà des Polignac à ce moment-là, à Versailles. Jules et Yolande ont été présentés avant l'arrivée de Marie-Antoinette. La présentation officielle à la cour de Louis XV. Ils ne sont pas revenus à Versailles, ils y reviennent pour les festivités du mariage du dauphin avec la petite archiduchesse d'Autriche. Ensuite, ils ne reviennent pas, ils rentrent dans leur château. Alors leur château, c'est Clé-en-Brie, c'est à 20 km à la sortie de Paris vers la ville de Meaux. C'est là qu'est né Jules et c'est là qu'il mène une vie tout à fait tranquille qui convient parfaitement à Madame de Polignac. Elle a un cercle d'amis, quelques parents, et elle est tout à fait heureuse dans une vie simple, en somme de gentilhomme campagnard, et elle n'aime pas vraiment, elle n'a aucune velléité de se montrer à Versailles. Mais l'année même de sa mort, le roi Louis XV nomme dame pour accompagner la comtesse d'Artois, la comtesse Diane de Polignac, la sœur de Jules. Et à partir de ce moment-là, au contraire, Jules et Yolande viennent souvent à la cour pour passer avec Diane le temps qui la retient, elle, dans son service de la comtesse d'Artois. Et c'est comme ça que Madame de Polignac se montre et vient plus souvent à la cour. Afin de la fixer donc à la cour, Marie-Antoinette, qui se voit dégoûtée de toutes ces propositions de charge pour elle-même, contourne la difficulté en offrant une charge à Jules, le mari de Madame de Polignac. Et elle le nomme premier écuyer en survivance du comte de Tessé. Voilà Madame de Polignac, obligée d'habiter à Versailles, et le couple se voit offert un appartement tout à fait magnifique, un appartement de 4 belles pièces, un peu bas de plafond, et les pièces ont été séparées par des cloisons, mais cet appartement a une situation magnifique, puisqu'il donne d'un côté sur la cour royale, où aboutit tout le mouvement du château, et de l'autre côté par un grand balcon sur la cour des princes. Il est desservi par l'escalier peintièvre d'un côté et par 2 plus petits escaliers de l'autre. Et Madame de Polignac, à partir du moment où Jules est premier écuyer de la reine, partage sa vie entre cet appartement dans le château et puis Trianon où Marie-Antoinette va goûter un peu d'indépendance. Et ce Trianon où Marie-Antoinette cherche un peu d'intimité est régi par un règlement qui est intitulé « De par la reine ». Donc on l'appelle parfois le petit Vienne. Madame de Polignac, parce que subitement elle est l'amie de Marie-Antoinette, n'entend pas se séparer du cercle qui faisait sa société avant la faveur. Alors ce cercle, de qui se composait-il? De ses parents les plus proches, c'est-à-dire les 2 cousins enfants de Madame d'Andelot et leur conjoint, hein, parce qu'ils se sont mariés depuis, et puis le comte de Vaudreuil qui de toute façon ne la quitte jamais, et puis quelques gentilshommes que nous connaissons bien quand nous connaissons la cour de Louis XVI, qui sont par exemple le baron de Bézinval, hein, le colonel des Suisses, le comte Esterhazy, le comte d'Adhémar, le merveilleux prince de Ligne, les Coigny, les Dillon, mais un tout petit groupe qui sont vraiment les amis ou les parents de Madame de Polignac et qui forment ce qu'on va appeler la société de la reine. Alors, la cour commence tout de même à remarquer Madame de Polignac, bien entendu, et Madame de Polignac est différente des autres dames qui évoluent à Versailles ou à Trianon. Et ces dames sont toutes très, très apprêtées, très élégantes, très sophistiquées, soucieuses de se faire voir et de se faire remarquer. Madame de Polignac, au contraire, est toujours un peu en retrait. Elle a un maintien modeste, elle parle peu et elle a surtout un habillement, également une mise assez simple. Et Madame Campan, la femme de chambre de Marie-Antoinette, assure qu'au fait de la faveur, jamais elle ne verra Madame de Polignac arborer des bijoux et des diamants, comme les autres dames. Madame de Polignac ne se poudre pas les cheveux, elle ne porte pas des pouffes et des perruques, elle porte ses cheveux au naturel, sur lesquels elle jette des chapeaux de paille d'Italie, et elle met à la mode cette robe en gaule qui est une robe un peu en chemise et qu'on voit sur tous les tableaux de Madame Vigée-le-Brun. Pourquoi? Parce que Marie-Antoinette évidemment se met elle aussi à porter cette robe en gaule et toutes les dames de la cour. Et ce tableau, ce fameux portrait de Marie-Antoinette va faire scandale. On va dire que la reine se montre en chemise et que Marie-Antoinette veut ruiner les soyeux et les tisserands de la ville de Lyon au profit des drapiers flamands, sujets de son frère. Et ce tableau, on le rebaptise, on l'appelle la France, sous les traits de l'Autriche, réduite à se couvrir d'une panne. Parce que, de toute façon, quoi que fasse Marie-Antoinette, ça lui est toujours porté à tort. Comme notamment, par exemple, le hameau qu'elle fait construire également à Trianon, le hameau qui ressemble à village normand et qui a des toits de chaume, des façades lézardées, mais tout est en trompe-l'œil, et quand on pousse une porte, on se trouve devant des boiseries, des cristaux, des dorures, comme si on était dans le château, n'est-ce pas? Et on va, de la même façon, voir là une insulte à la pauvreté du peuple. Marie-Antoinette y joue les fermières, et ça, de la même façon, ça va être mal perçu. Et pourtant, Marie-Antoinette, quand elle se fait construire ce hameau, n'inaugure pas. En réalité, cette mode nous vient d'Angleterre. Elle a été suivie par la duchesse de Bourbon, qui habite notre actuel palais de l'Élysée, et c'est là qu'on construit le premier hameau. Ensuite, il y a les princes de Condé à Chantilly, qui construisent un hameau. Et c'est probablement le hameau de Chantilly qui inspire la reine. Mais mesdames tantes, les tantes de Louis XVI, les filles de Louis XV, auront leur hameau à Bellevue. Madame Élisabeth aura son hameau à Montreuil. Donc, Marie-Antoinette, si l'on veut, est dans l'air du temps. Elle ne fait pas là preuve d'une originalité particulièrement choquante. Mais parce que c'est elle, parce que c'est la reine, c'est mal perçu. C'est très mal perçu aussi parce que les reines qui ont précédé Marie-Antoinette, en réalité, se cantonnaient entre les murs de Versailles. Une reine avait deux devoirs qui étaient de représentation et de procréation. La reine n'était pas censée avoir ainsi un pied-à-terre en dehors du château. Où Marie-Antoinette, en réalité, prétend trouver un peu d'intimité et prétend vivre en particulière, ce qui est très mal perçu. Son frère Joseph dit que être roi, c'est un métier. Eh bien, on pourrait dire d'une manière un peu familière que Marie-Antoinette ne fait pas le job. Si j'ose me permettre l'expression. Alors, cette fameuse société de la reine, écrit la marquise de Bombelle, est composée de personnes bien méchantes et montées sur un ton de morgue et de médisance incroyable. Ils se croient faits pour juger le reste de la terre. Ils ont si peur que quelqu'un puisse s'insinuer dans la faveur qu'ils ne font guère d'éloges, mais qu'ils déchirent bien à leur aise. C'est très exagéré parce que, bon, la société de Madame de Polignac est dominée par, on s'en doutait, la comtesse Diane et puis ce fameux comte de Vaudreuil. La comtesse Diane a un caractère tellement abrupt et autoritaire que le roi Louis XVI lui-même la craint et n'ose pas la contrarier. Elle a son franc-parler, ainsi quand elle devient... quand elle est à la tête de la maison de Madame Élisabeth et que, par exemple, la baronne d'Oberkirch vient faire sa cour à la princesse, à Madame Élisabeth, et en ressort en disant à la comtesse Diane « Oh, Madame Élisabeth a beaucoup de beauté !» La comtesse Diane lui répond « Oui, certes, mais l'embonpoint gâche tout !» Et voilà, la comtesse Diane est ainsi. Donc, évidemment, c'est un peu difficile à supporter pour beaucoup de monde. Et quant au comte de Vaudreuil, c'est quelqu'un de particulièrement autoritaire et colérique, mais à côté de cela, c'est un mécène éclairé. Il est extraordinairement généreux pour un tas d'artistes faméliques qu'il protège et que subitement, parce qu'il est bien en cour, n'est-ce pas, parce qu'il profite de la faveur de Marie-Antoinette, eh bien, il a beaucoup de moyens pour pousser et pour aider, comme notamment l'écrivain Champfort, mais des peintres également. Et ce comte de Vaudreuil, de la même façon, quoique faisant preuve d'un caractère pénible, hein, vraiment pénible, il faut le dire, eh bien, malgré tout, c'est quelqu'un de particulièrement noble et généreux. Il le prouvera par la suite. Et c'est quelqu'un de chevaleresque et de particulièrement loyal. Il le sera. Il sera loyal au roi et à la reine, et il le prouvera dans des temps plus difficiles. Quelle est l'attitude de Louis XVI vis-à-vis de Madame de Polignac? Eh bien, Louis XVI apprécie particulièrement régulièrement, Madame de Polignac. Elle est la seule dame de la cour à laquelle il adresse la parole, à laquelle il prête attention, à côté de laquelle il s'assoit, et chez laquelle il se rend en particulier. Et c'est quelque chose de particulièrement remarquable à noter, parce que, de même que Louis XVI n'aura jamais de maîtresse, on ne lui connaît pas non plus d'amis. C'est quelqu'un d'assez sauvage et d'assez renfermé. Il est timide et mal à l'aise. Et Louis XVI, donc, prend en affection, lui aussi, Madame de Polignac. Et ce sera remarquable également dans l'exil, quand Madame de Polignac ne recevra plus de lettres de Marie-Antoinette, eh bien le roi, au contraire, continuera à lui écrire jusqu'à la fin. Je pense aussi que c'est un gage d'honorabilité pour Madame de Polignac, parce que Louis XVI est particulièrement, c'est quelqu'un de particulièrement sérieux et pieux. Or, Madame de Polignac a bientôt une image de dévergondée. Alors, ça ne reflète pas du tout la réalité, mais parce qu'elle est l'amie de Marie-Antoinette, il faudra, et qu'il faudra, n'est-ce pas, décrier Marie-Antoinette et l'attaquer de toutes parts, eh bien, on fera donc de Madame de Polignac quelqu'un également de tout à fait perdu de vice, qui ne correspond pas à la vérité. Alors, Madame de Polignac ne commence pas d'emblée à réclamer, n'est-ce pas, du fait de sa faveur. Mais ses entours envisagent très vite, clairement, tout le parti qu'ils peuvent tirer de l'amitié royale, et ils se montrent beaucoup plus avides qu'elle. Il la presse bientôt de solliciter des gratifications en tout genre. Et ça n'étonnera personne, hein, je suppose. Alors, la première faveur que demande Madame de Polignac, c'est pour cette Madame d'Andlau, la comtesse d'Andlau, qui lui a servi de seconde mère et qui l'a élevée vraiment comme sa fille. Et cette dame est veuve d'un lieutenant général du royaume, et qui serait devenu maréchal de France s'il était mort un peu plus tard, et qui ne touche pas de retraite. Et donc, cette comtesse d'Andlau, malheureusement, est très connue à Versailles, parce qu'elle était dame pour accompagner la princesse fille de Louis XV, Madame Adélaïde. Elle faisait partie de la maison de Madame Adélaïde. Or, voici qu'on a trouvé un jour entre les mains de la princesse le portier des Chartreux, qui n'est autre qu'un petit livre pornographique visant à dénoncer l'hypocrisie sociale et religieuse. Alors vous imaginez bien que ça a fait l'effet le plus mauvais, et que le sang de Louis XV n'a fait qu'un tour, et hop, la comtesse d'Andlau a été virée de Versailles. Manu Militari, elle a été exilée en 1746. N'empêche que voilà, Madame de Polignac, la bouche en cœur, qui réclame pour la comtesse d'Andlau et qui obtient 6 000 livres de gratification annuelle, qui sont accordées de très bonne grâce par Louis XVI. Alors, Madame de Polignac se vend d'une lettre de remerciement pour le contrôleur général, qui lui répond, alors le contrôleur général à ce moment-là, c'est Turgot, et qui lui répond: Madame, vous ne me devez point de remerciement, parce que j'ai fait tout ce que j'ai pu et dû pour m'y opposer. Voilà, ambiance. Alors, après cette pension pour Madame d'Andlau, n'est-ce pas, ce sont des ambassades. Alors, l'ambassade de Soleur pour le beau-père, de Bruxelles pour le cousin, pour Champfort, le protégé de Vaudreuil, c'est le secrétaire, c'est un emploi de secrétaire particulier de Madame Élisabeth. Vaudreuil lui-même se retrouve grand fauconnier. Adhémar se retrouve chevalier d'honneur en attendant l'ambassade de Londres. La comtesse Diane est bientôt, comme je vous l'ai dit, nommée à la tête de la maison de Madame Élisabeth. 1780 est véritablement une année faste pour les Polignac. J'ai trouvé dans le livre d'Alexandre Marat, « Femme de Versailles », n'est-ce pas, que le revenu des Polignac à ce moment-là monte à 500 000 livres par an. Pourtant, dans la biographie de Marie-Antoinette de la main de Philippe Delorme, je lis que Madame de Polignac touche en 14 ans, 14 années de faveur, moins que Madame de Pompadour en une année, ce qui relativise les chiffres. Alors, cette seule année de 1780, notre comte Jules est fait duc, donc Madame de Polignac a le tabouret de duchesse. Jules a subitement également la direction générale des postes et des haras. Ils marient leur fille, Aglaé, avec le duc de Guiche, et elle obtient une dot, pareil, n'est-ce pas, offerte par le roi, de 800 000 livres, ce qui est exorbitant. Et Madame de Polignac marie son demi-frère avec Louise de Lucen des Parbès, une jeune fille qu'elle a choisie au couvent de Panthémont, et qui obtient aussitôt, elle aussi, une charge de dame du palais de la reine. Les présentations officielles d'Aglaé et de Louise, Aglaé devenue duchesse de Guiche et Louise devenue Louise de Bolastron, ont lieu dans la foulée. Et à la présentation de Louise de Bolastron, le comte d'Artois, jeune frère du roi, a un coup de foudre et s'éprend éperdument de Louise de Bolastron, comme nous savons tous, hein, puisque Louise de Bolastron va être le grand amour du comte d'Artois. Il y a également l'acquisition, car je suis toujours dans les grâces, hein, les bienfaits, il y a également l'acquisition du domaine de Fénestrange. Donc on le voit, Madame de Polignac pratique comme ingénument, en fait, en réalité, un népotisme efficace et chevelé. Elle devient la personnification de tous les abus et de tous les privilèges de l'Ancien Régime. En 1781, présente son compte-rendu au roi. Évidemment, il épingle les charges de la cour et il désigne Marie-Antoinette comme grande responsable. Et évidemment, à travers Marie-Antoinette, la famille de Polignac, puisque Marie-Antoinette est censée ruiner le trésor royal pour couvrir de bienfaits son ami, la famille de son ami, et tous les amis, tous les parasites, tous les parents plus ou moins éloignés, qui gravitent autour de Madame de Polignac. Marie-Antoinette devient Madame Déficit. En réalité, les dépenses de la cour font 6% du budget de l'État. Et Necker, alors Necker, hein, pour ses contemporains, se dédouane lui-même de sa responsabilité dans le crash financier. C'est lui qui nous a endettés en empruntant à tout va pour soutenir les insurgents de la guerre d'indépendance américaine. Et c'est là, en réalité, que gît le déficit de l'État. Quant aux dépenses excessives des Polignac, que je ne défends pas, hein, que je vous concède, bien évidemment, il convient de considérer que, de par la volonté de Marie-Antoinette elle-même, la duchesse tient en quelque sorte auberge royale et reçoit toute la cour, 3 jours par semaine, du matin au soir, pour complaire à la reine. En somme, les Polignac et leurs proches vivent en courtisans et bénéficient du fonctionnement normal de la cour et fonctionne selon des règles établies au siècle précédent par Louis XIV. Avec la conscience de gens qui ne veulent pas voir que l'époque a changé et que l'ordre des choses et les mentalités sont en complète mutation. Ils vivent dans une bulle, loin de la réalité des revendications d'une nation exaspérée. Autour d'eux, l'envie et la jalousie vont crescendo. On murmure dans le public que Madame de Polignac met le trésor au pillage. À Marie-Caroline de Naples, qui lui demande « Mais d'où vient ce déchaînement de haine de votre nation, de votre pays, contre ma malheureuse sœur ?» Ojard, le secrétaire des commandements de Marie-Antoinette, répond que par malheur, Marie-Antoinette a laissé la dignité de son rang suprême dans son palais pour aller dans l'appartement de Madame de Polignac y jouer le second rôle. Et le comte de Saint-Prix note dans son journal, dans ses mails, que la reine de France, au regard du public, passe pour la prisonnière d'une coterie. En effet, se dresse autour de Trianon un véritable mur du secret qui alimente tous les fantasmes. Marie-Antoinette écrit à sa mère « Nous sommes dans une épidémie de chansons satiriques. On en fait sur toutes les personnes de la cour, hommes et femmes. On m'a très libéralement supposé les deux goûts, celui des femmes et celui des amants. Quoique les méchancetés plaisent assez dans ce pays-ci, elles sont si plates et de si mauvais ton qu'elles n'ont eu aucun succès, ni dans le public, ni dans la bonne compagnie. » En réalité, Madame de Polignac et Marie-Antoinette sont les femmes d'un seul amour. Jules de Polignac est affable, courtois, avec un physique passable et une perspective bornée, nous dit le comte de Tilly. Plus ami qu'amant de sa femme, il se contente toujours de ce titre et ne supporte sans humeur de n'en avoir pas d'autre. La rumeur donne pour amant à Madame de Polignac son cousin, le comte de Vaudreuil, et je suis assez encline à le croire, puisque lorsqu'elle mourra, le comte de Vaudreuil écrira à l'un de ses parents « Jugez de mon désespoir, je ne suis plus premier objet pour personne au monde. » Quant à Marie-Antoinette, elle a connu à 18 ans ce comte suédois Fersen, qui restera toute sa vie pour elle le plus aimé et le plus aimant des hommes. Madame de Polignac est dans la confidence de cette idylle. Nous le savons par le duc de Dorset, ambassadeur d'Angleterre en France, qui écrit à son amie, la duchesse de Devonshire. Cette lettre a été publiée par l'auteur britannique Evelyn Farr dans son livre magistral « Marie-Antoinette et le comte de Fersen, la correspondance secrète ». Voici ce que le duc de Dorset écrit à la duchesse de Devonshire, pas tel que je vais vous le répéter, parce que bien entendu, il utilise des noms de code. Louis XVI et Marie-Antoinette sont Monsieur et Madame Brown, Madame de Polignac et Little Poe, et Fersen et The Roman. Le duc de Dorset écrit qu'il a découvert que Madame de Polignac est dans la confidence. Il l'a vu l'autre soir sortir de son manchon un billet que Marie-Antoinette venait de lui donner pour le glisser à Fersen. Il croit, c'est toujours lui qui écrit à la duchesse de Devonshire, il croit que Madame de Polignac sera heureuse et soulagée quand Fersen sera parti. Il est sûr qu'elle s'inquiète de ce que quelqu'un insinue quelque chose au roi, qui, bien que non soupçonneux de caractère, pourrait être tenté d'y prêter l'oreille. Alors, nous voyons que, bien évidemment, les rumeurs de sapisme sont à évacuer comme une fable. Elles sont un angle d'attaque évident qui se prête à merveille à l'art scandaleux du pamphlet. Mais au-delà du désir de traîner dans la boue la reine, elles sont une émanation d'une crainte bien réelle du pouvoir au féminin. Il y a eu Élisabeth d'Angleterre, il y a eu Christine de Suède, il y a Catherine de Russie, il y a Marie-Thérèse en Autriche, et regardons du côté du royaume de Naples, nous voyons Marie-Caroline, la propre sœur de Marie-Antoinette, porter la culotte et gouverner à la place de son mari, qui lui va à la pêche avec ses ladroni et qui vend son poisson sur le port de Naples. On s'inquiète beaucoup de ce que Marie-Antoinette pourrait, elle aussi, avoir des velléités, n'est-ce pas, d'être une femme de pouvoir, et ceci d'autant plus que l'on constate que le Louis XVI est un roi faible et influençable, et qu'il glisse, il dérive dans une espèce d'état dépressif, comme Simone Bertière l'a très bien montré dans sa biographie de Marie-Antoinette. Alors pourquoi? Parce que Louis XVI a accusé des coups très très durs sur le plan privé. Sa petite fille, son quatrième enfant, la princesse Sophie, est morte. Il y a eu cette affaire du collier épouvantable, n'est-ce pas, qui a traîné la monarchie, l'honneur de la monarchie, enfin qui a complètement discrédité Marie-Antoinette. Il y a eu également la mort de Vergennes en 1787. Donc Louis XVI effectivement glisse dans un état d'inertie, et Marie-Antoinette, qui n'a jamais été tentée par la politique, que son frère Joseph traitait de tête avant et qui n'a pas été formée pour la politique, eh bien Marie-Antoinette, devant l'adversité, c'est-à-dire en réalité, quand on est vers 1787, on va glisser très vite vers les problèmes qui vont nous mener au seuil de la Révolution, Marie-Antoinette va être obligée, effectivement, de prendre le mort aux dents. Et c'est d'autant plus vrai, n'est-ce pas, que Mirabeau dira « Le roi n'a qu'un homme auprès de lui, c'est sa femme ». Et dans aux heures les plus graves, quand le couple royal aura des interlocuteurs et qui essaieront de leur porter secours et de sauver la situation, je pense à Mirabeau par exemple, ou je pense à Barnabe après Varennes, n'est-ce pas, et bien pour faire scène d'un bout à l'autre, n'est-ce pas, des problèmes du couple royal, et bien ces défenseurs s'adresseront directement à Marie-Antoinette. Je dirais même que le comte de Morin, ministre de Louis XVI, refusera de parler au roi hors la présence de Marie-Antoinette. Les Polignacs eux-mêmes se mêlent-ils de politique? Le comte de Mercy, au début du règne, se demande avec angoisse pour qui roule Madame de Polignac, de Choiseul ou de Maurepas. Elle est d'ailleurs apparentée aux deux. Elle est nièce un peu des deux, enfin vaguement. C'est d'autant plus inextricable pour lui qu'en tout état de cause à cette époque-là, c'est-à-dire dans les premières années, eh bien les Polignacs n'ont pas de ligne politique définie, et qu'en réalité leur influence en politique va leur permettre simplement d'obtenir la nomination de parents ou de proches à des charges honorifiques ou diplomatiques. Pendant toute la période de 1775 à 1789, Madame de Polignac est le point de passage obligé pour tous ceux qui souhaitent approcher ou solliciter le roi, évidemment via la reine. L'influence que les Polignac ont pu avoir dans les affaires s'est initialement appuyée sur l'influence que le roi concédait à Marie-Antoinette et qui, effectivement, se bornait à quelques protections et des recommandations militaires et diplomatiques qui n'allaient pas changer la face du monde. Hein. Mais à l'automne de 1784, lors de la fameuse affaire des douches de Lescaut, c'est le roi lui-même qui va solliciter Madame de Polignac à jouer un rôle politique. À ce moment-là, Joseph II, le frère de Marie-Antoinette, s'allie à Catherine de Russie pour aller en découdre avec le Turc ottoman. Seulement, pour aller jusqu'au croissant, jusqu'à la grande porte, il leur faut la réouverture des bouches de Lescaut, qui est tenue par les Hollandais. Et Joseph II va solliciter l'aide de Louis XVI pour s'assurer la réouverture des bouches de Lescaut. Et Marie-Antoinette, qui, dont le mariage était tout de même le gage de l'alliance avec l'Autriche, Marie-Antoinette se croit tout à fait dans son bon droit et tout à fait habilitée à réclamer à son mari son alliance et son soutien pour l'Autriche et pour Joseph II. Et Louis XVI, évidemment, ne l'entend pas du tout de cette oreille. Ce serait évidemment mettre en péril l'équilibre de l'Europe. Il n'en est absolument pas question. Et Marie-Antoinette assiège son mari, assiège Vergennes, fait des scènes dans le cabinet des ministres. Tout cela est terriblement mal perçu. Et à ce moment-là, Louis XVI, la société Polignac, le marquis de Bombay l'écrit, voit les choses d'une façon tout à fait différente de la reine et se range résolument du côté du roi et de Vergennes. Et le roi, ça c'est le duc de Castres qui l'écrit, je cite toujours mes sources, hein, parce que bon, Louis XVI, je recherche ma citation, demande, voilà, le duc de Castres écrit que le roi, inquiet des dispositions de la reine en faveur de son frère, se sert, c'est-à-dire qu'il l'utilise, se sert de la duchesse de Polignac pour engager son amie, Marie-Antoinette, à ne pas contrarier l'avis de son conseil. Ce qui est quand même fort. Marie-Antoinette est plus que jamais désignée comme l'Autrichienne. C'est à ce point que c'est un déferlement dans le public et que sous la vie écrite, qu'on va jusqu'à compter les jours de la naissance, les 9 mois qui précèdent la naissance de Marie-Antoinette en disant « Mais Choiseul est certainement le père de l'Autrichienne. » Alors évidemment, ça ne résiste pas à l'examen, mais c'est pas grave, on colporte. Choiseul qui a fait assassiner le grand dauphin, le père de Louis XVI, comme Marie-Antoinette a fait assassiner Vergennes. Enfin bref, c'est un déchaînement. Et Marie-Antoinette, donc, est plus seule que jamais. Cette affaire des bouches de Lescaut, où les Polignac soutiennent le roi et Vergennes, contre Marie-Antoinette, enfin non pas contre Marie-Antoinette bien entendu, mais contre l'Autriche et les velléités politiques de l'Autriche, eh bien cette affaire est la démonstration que les Polignac ne forment nullement et ne formeront jamais le noyau du fantasmatique comité autrichien dont on parlera tellement à la veille de la Révolution. Au contraire, le comte de Mercy-Argenteau vient faire ses urbanités une fois par mois dans le salon de Madame de Polignac, à peine. Il s'y sent persona non grata. Et quant à l'abbé de Vernon, alors là, Madame de Polignac et lui se détestent très cordialement. Donc on oublie également, n'est-ce pas, le comité autrichien qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Il y a simplement ce tandem Mercy-Argenteau abbé de Vernon et qui est véritablement le cheval de Troie de Marie-Thérèse à la cour de Louis XVI. Aussitôt après ce clash politique quand même terrible de l'affaire du collier, de l'affaire de Lescaut, des Bouches de Lescot, éclate une autre affaire, donc celle du collier. Et là encore, elle donne lieu à un certain malaise dans la société de la reine, où, bien évidemment, l'entière innocence de Marie-Antoinette n'est jamais mise en doute par personne, bien évidemment. Mais Vaudreuil, le fameux cousin Vaudreuil, n'est-ce pas, qui tient enfin, qui est la figure de proue de la société de la reine, clame haut et fort que le cardinal non plus n'est pas coupable. Il a été le jouet d'une aventurière, il a été grugé. Et malgré tout, eh bien, il est d'un ton de la farce. Et Marie-Antoinette est très, très mortifiée et garde une rancune tenace à Vaudreuil de sa prise de position. Cependant, les liens d'amitié entre elle et Madame de Polignac ne se relâchent pas pour autant. Et le voyage que Madame de Polignac fera bientôt à Bath, en Angleterre, pour sa santé, sera peut-être la couverture d'un but secret qui serait une tentative de rachat du mémoire justificatif que la comtesse de Lamothe menace de faire publier en Angleterre, si elle ne reçoit pas une somme énorme de Louis XVI, n'est-ce pas, de la pour se taire. Bon. Alors, ce voyage de Madame de Polignac à Bath, en Angleterre, eh bien, il va être motivé par une autre querelle entre la reine et la duchesse. C'est vous dire que cette amitié n'est vraiment pas tranquille et paisible, et qu'au contraire, ces deux dames ont toujours, toujours des sujets de dissension, et que malgré tout, elles surmontent toujours, parce que effectivement, bon, il y a ce sentiment fort, et cette amitié sincère entre elles. Alors, quelle est encore cette nouvelle dissension, qui sera une des plus violentes d'ailleurs, entre Marie-Antoinette et Madame de Polignac? La duchesse avait reçu en 1782 la charge la plus importante et la plus honorifique de la cour, celle de gouvernante des enfants de France. C'était une charge qui était détenue par la princesse de Guéméné, mais le prince de Guéméné ayant fait une banqueroute frauduleuse, scandaleuse, retentissante, terrible, énorme, la princesse n'a d'autre recours que de donner sa charge, sa démission de la charge. Et la charge est donc vacante, et Madame de Polignac se retrouve gouvernante des enfants de France. Or, le petit duc de Normandie, le troisième enfant de Marie-Antoinette et Louis XVI, est souvent sujet à des convulsions très violentes. Et le médecin lui prescrit la pose de sangsue derrière les oreilles. Madame de Polignac est complètement révulsée par ce traitement. Et pour ménager la sensibilité de Marie-Antoinette, elle se garde bien de lui en parler. Par contre, évidemment, elle en parle au roi. Elle demande la permission au roi, son assentiment. Louis XVI le donne, mais à condition qu'il soit là et qu'il assiste à l'opération. Donc, elle a lieu, Louis XVI est là, le médecin pose les sangsues, et puis ensuite les enlève. Seulement, quand Marie-Antoinette revient et retrouve son enfant, elle voit des petites traces, des petites marques dans le cou. Elle demande ce que c'est, et Madame de Polignac est bien évidemment obligée de lui expliquer. À ce moment-là, Marie-Antoinette entre dans une rage folle, dans une colère terrible. On a infligé ça à son enfant, on le lui a caché, ce qui est pire que tout. C'est une scène affreuse. Madame de Polignac assoit la reine, lui donne un verre d'eau, attend qu'elle se calme un peu, ensuite lui explique, voilà, j'ai fait ça pour vous ménager. La reine ne veut rien entendre. Et donc Madame de Polignac, posément, lui dit, puisque c'est ainsi, je démissionne de ma charge. Alors là, grande dame, Madame Vichet Lebrun consigne dans ses mémoires, enfin, qu'elle a dans son journal, non, ses mémoires, qu'elle voit Louis XVI à genoux devant Madame de Polignac et la suppliant de ne pas lui remettre sa démission. Et il lui concède à ce moment-là un voyage pour sa santé, un voyage pour son repos, et bien le fameux voyage à Bath. Hein, ou peut-être Madame de Polignac est allée pour récupérer ce fameux mémoire justificatif de la comtesse de la Motte. Alors, excusez-moi, je bois. Madame de Polignac avait d'autant plus vivement ressenti l'injustice de la réaction de Marie-Antoinette qu'elle s'acquittait avec beaucoup de conscience de l'exercice de sa charge qui lui avait été imposée et qui désormais la privait justement de sa sacro-sainte liberté et de sa sacro-sainte tranquillité auxquelles elle tenait tellement. Ses entours avaient manœuvré d'arrache-pied pour obtenir sa nomination et elle leur avait dit « Je vous hais tous à mort, vous voulez me sacrifier ». Marie-Antoinette, elle, avait vu par cette nomination le moyen de contourner la règle curiale qui interdisait à la reine de France de s'occuper de l'éducation de ses enfants. Et elle s'était dit qu'en confiant cette charge à son amie, eh bien elle s'occuperait elle-même de l'éducation de la petite Marie-Thérèse, Madame Royale. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Sur quoi le duc est... Oh, oui, c'est ça. Oui, si je vous ai parlé de l'appartement de Versailles, hein, l'appartement dans l'aile Louis XIII, eh bien, à ce moment-là, le duc et la duchesse quittent cet appartement de la vieille aile pour s'installer dans l'aile du Midi, l'aile des princes, donnant sur les parterres de l'orangerie. 3 jours par semaine, les mardis, les mercredis, les jeudis, Madame de Polignac est censée recevoir toute la cour du matin au soir. Selon les échos des contemporains, Madame de Polignac remplit sans faillir les devoirs de sa charge. Un bémol de la part de Jacob Nicolas Moreau, historiographe de la cour et qui est d'ailleurs un oncle aussi, lui décidément ils sont tous apparentés à Madame de Polignac. Que reproche-t-il à la duchesse? Il lui reproche d'avoir dispensé de la messe quotidienne les petits princes. Sur quoi Marie-Antoinette estima que l'éducation religieuse de ses enfants pouvait attendre, l'âge de raison. Alors cette irreligion est un grief très grave pour l'époque, à ce moment-là, un grief que l'on fait à la société Polignac. Je reviens à Madame d'Andlau, la comtesse qui a servi de seconde mère à Madame de Polignac, qui a élevé, qui avait 2 enfants, et dont un fils Henri. Elle a marié ce fils Henri à Marie-Adélaïde Helvétius. Marie-Adélaïde est la fille du fameux écrivain, du fameux philosophe qui a écrit l'esprit. Or, que dit l'esprit? La croyance en Dieu, Helvétius considère que il faut dépasser l'idée de Dieu. Alors, attendez, je vais vous lire ma petite citation, parce que... Alors, visant à dépasser l'idée de Dieu et défendant un athéisme relatif, Helvétius considère la croyance, la foi en Dieu, comme le résultat de notre incapacité à comprendre le fonctionnement de la nature et voit dans les religions, notamment catholiques, un despotisme n'ayant pour but que le maintien de l'ignorance pour une meilleure exploitation de l'homme. La comtesse Diane pose pour être un esprit fort et elle se dit une fidèle disciple d'Helvétius. Elle se permet d'arriver bruyamment à la messe et même en retard, et Vaudreuil, quant à lui, en l'année 1785, demande à son ami Champfort d'écrire contre le haut clergé. Tout ça, évidemment, fait très, très, très mauvais effet. Et Marie-Antoinette, à ce moment-là, en 1785, est enceinte de sa petite Sophie. Et c'est une grossesse difficile. Et elle demande à communier. Elle demande à communier et à se confesser. Et on murmure aussitôt que les Polignacs craignent que le cercle voltairien des Polignacs s'alarme d'un prochain retour du règne des prêtres. Le cercle voltairien des Polignacs, ça c'est quand même extraordinaire. Et pourtant, en 1778, quand Voltaire était remonté de Ferney pour la première de sa pièce Irène, eh bien, c'était Madame de Polignac qui s'était entremise et qui avait obtenu du roi, effectivement, que Voltaire ne serait pas inquiété par la police royale. Et Madame de Polignac s'était rendue elle-même au quai des Théatins, aujourd'hui notre quai Voltaire, pour expliquer aux philosophes qu'ils n'avaient rien à craindre. Tout Paris, d'ailleurs, défilait chez le marquis de Villette, chez qui logeait Voltaire, et Madame de Polignac était passée après Piccini. Voltaire l'avait reçue en robe de chambre chamarrée et en bonnet de nuit, comme il recevait tout le monde. Voilà pourquoi nos Polignacs ont, en plus, n'est-ce pas, cette réputation d'être un cercle voltairien. Ça fait beaucoup. Plus subversive encore que Voltaire était la contagion des idées nouvelles, car il faut qu'on y arrive, on approche dangereusement de la révolution, et ces idées nouvelles avaient été personnifiées par Benjamin Franklin quand il était venu en 1778 avec Silas Deane et Arthur Lee, délégation pour obtenir de Louis XVI l'aide aux insurgents américains. Là, je vous fais en quelque sorte un petit retour en arrière, un petit flashback. Et là encore, que voyons-nous? Nous voyons les Polignacs, copains comme cochons, si je puis dire, avec Benjamin Franklin. À ce moment-là, Madame de Polignac elle-même est enceinte de son troisième fils, Jules. Et elle loue. L'un des pavillons de l'hôtel du duc de Valentinois à Passy, l'autre pavillon est prêté à Benjamin Franklin. Ils sont voisins. Et donc, évidemment, c'est un voisinage tout à fait sympathique et harmonieux. Et alors là, c'est amusant, je reviens à Madame Helvétius, que Benjamin Franklin part visiter à pied, rue Basse, rue de la Fontaine, jusqu'à Auteuil, où habite Madame Helvétius, en habit brun, avec son bâton. Et il fait une cour échevelée à Madame Helvétius, alors tout le monde se retrouve, ou dans à Passy, ou à Versailles, où est Benjamin Franklin, ou chez Madame Helvétius à Auteuil. Et Louis XVI se moque de la comtesse Diane, qui là encore, évidemment, pose pour un esprit fort et pour, n'est-ce pas, encense Benjamin Franklin que toute la cour encense, et dont on vend des petits portraits en médaillon avec la devise en latin « Il arracha sa foudre au ciel et aux tyrans leur sceptre ». Et Louis XVI, qui doit avoir le sens de l'humour, je suppose, offre à la comtesse Diane un vase de nuit, c'est-à-dire un pot de chambre, c'est-à-dire dans quoi on fait pipi la nuit quand on se lève, avec au fond le fameux médaillon de Benjamin Franklin et la devise « Il arrache sa foudre au ciel et au tyran son sceptre ». Donc, n'est-ce pas, nous le voyons, Madame de Polignac jouait un véritable rôle de relation publique. Toutes les requêtes passaient par elle. À Jacob-Nicolas Moreau, qui se plaignait de la froideur de la reine, le comte de Provence, frère lui aussi de Louis XVI, répondit « Vous connaissez la comtesse Jules ? Eh bien, monsieur, pour aller au bon Dieu, il faut passer par ses seins. » Et c'est ce que firent le marquis d'Arlande et Pilâtre de Rosiers lorsqu'ils voulurent lancer leur ballon en vol libre, c'est-à-dire non attaché, hein, vol habité. C'est quelque chose qui ne s'était pas encore fait. On avait bien lancé des ballons, mais ils étaient arrimés. On en avait lancé en vol libre, mais habité par des petites bestioles qu'on avait d'ailleurs retrouvées vivantes. Bon, la requête est difficile à proposer parce que Louis XVI a formellement interdit tout vol habité. Eh bien, que font le marquis d'Arlande et puis la Croix de Rosier? Ils vont trouver Madame de Polignac, qui va trouver la reine. Et ensemble, elles vont trouver le roi. Et elles intercèdent. Et Louis XVI finit par quand même permettre le vol habité. Il sera la nacelle, on mettra dans la nacelle deux condamnés à mort, et voilà. Alors, évidemment, Pilâtre de Rosier et le marquis d'Arlande protestent, mais il n'en est pas question. Mais c'est nous qui ferons le vol. Et Madame de Polignac propose les jardins du château de la Muette, où elle tient la cour de Monseigneur le Dauphin. Et c'est ce qui se passe. Le ballon est lancé de ces jardins du château de la Muette le 21 novembre 1783. Et bien évidemment, toute la cour est là, toute la cour admire, c'est formidable, ça se passe tout à fait bien. Madame de Polignac a pris sur ses genoux le dauphin, et ce qui permet d'imprimer le lendemain au Mercure de France, Monseigneur le dauphin a pris un très vif intérêt à l'ascension de messieurs d'Arlande et de Rosier et a daigné leur témoigner sa bienveillante sollicitude. La valeur n'attend pas le nombre des années, puisque en somme, Monseigneur a tout juste 2 ans. Donc, ça n'est pas tout. Il y a également un autre problème à ce moment-là, c'est le fameux... Pardon. Oui. C'est affreux parce que je ne suis même pas arrivée à la Révolution. Je crois que je vais tâcher de faire plus vite. Je voulais parler du mariage de Figaro, qui est formellement interdit par le roi, mais de la même façon, Madame de Polignac finit par arracher au roi la permission de le jouer chez le comte de Vaudreuil. C'est quelque chose de tout à fait, comme vous savez, subversif, parce que Figaro dit que « Qu'avez-vous fait pourtant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître, rien de plus. » Et ceci est une dénonciation pure et simple de la noblesse. Alors, contrairement à l'image que l'on a voulu donner d'eux, Vaudreuil et les Polignac, comme toute une partie de la haute société, n'est-ce pas, n'étaient pas insensibles au caractère généreux des idées nouvelles, tant que celles-ci se cantonnaient à une critique des mœurs, et tant que le principe monarchique n'était pas attaqué et mis en cause. Et cela... Et là, évidemment, je suis tout à fait pressée. L'égalitarisme, en tout cas fiscal, fut le cheval de bataille d'un protégé du clan Polignac, Calonne. Et Calonne, les réformes que Calonne va proposer, va vouloir faire promulguer, approuver par l'Assemblée des notables, ces réformes, voilà en quoi elles consistent: unifier l'administration des provinces, alléger la gabelle, les douanes intérieures, réduire les dépenses de la cour, établir l'égalité fiscale. Eh bien, ça va être un tollé, et ces réformes et ce Calonne que Louis XVI avait d'abord soutenu, Louis XVI le lâche. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, entre-temps, Vergennes est mort. Louis XVI n'est plus soutenu par un ministre fort. Et Louis XVI lâche Calonne. Et Calonne est remplacée par l'Homélie de Brienne, le poulain de l'abbé de Vermont. Alors à ce moment-là, il y a un renversement, si l'on peut dire, parce que Calonne était la créature des Polignac, c'était le bailleur de fonds de Vaudreuil, et là, c'est l'Homélie de Brienne qui vient et qui lui-même fait montre de son inefficacité pour rétablir un peu les finances royales. L'Homélie de Brienne fait 3 petits tours et puis s'en va. Et à ce moment-là, qui rappelle-t-on ? On rappelle l'ennemi, si je peux dire, des Polignac, Necker. Et Necker ne voit d'autre possibilité pour faire quelque chose de fort, quelque chose qui marque, ne voit d'autre parce qu'il ne va pas encore lever des impôts, c'est pas possible, on ne tombe pas un chauve. Donc, que dit-il ? Eh bien, on va réunir les États généraux. Et à ce moment-là, il propose le doublement du tiers. Alors, c'est quelque chose de tout à fait inadmissible pour Vaudreuil, pour les Polignac et pour tout ce qui est à ce moment-là ultra-royaliste et j'ajoute ultra-réactionnaire, hein, parce que là, nous y voilà, c'est le principe monarchique qui est égratigné. Alors, Vaudreuil va trouver son ami Champfort, qui a déjà écrit pour lui, vous vous en souvenez, contre le haut clergé, et il lui dit, écoutez, là, il faut que vous me fassiez quelque chose, il faut absolument que vous écriviez contre ce doublement de pierre. Et Vaudreuil est hors de lui, et Champfort lui répond, qu'il n'en fera rien. En effet, de quoi s'agit-il ? D'un procès entre 24 millions d'hommes et 700 000 privilégiés. Vous croyez qu'on vous attaque personnellement ? Point du tout. Ne voyez-vous pas qu'il faut nécessairement qu'un ordre des choses aussi monstrueux soit changé ? Ou que nous périssions tous également ? Clergé, noblesse et tiers état. En septembre 88, Bombel note, le marquis de Bombel, note que le Parlement a désiré que Madame de Polignac fasse passer ses propositions à la reine. Mais elle n'a pas voulu se charger de cette commission, disant que l'abbé de Vermont gâterait et renverserait dans le quart d'heure tout ce qu'elle aurait fait. Le comte d'Artois, lui aussi, se démène contre le doublement du tiers. Et il se vend, lui aussi, d'un mémoire. Qui peut dire où s'arrêtera la témérité des opinions ? Les droits du trône sont mis en question. Bientôt, les droits de la propriété seront attaqués. L'inégalité des fortunes sera présentée comme un objet de réforme. Est-ce pensable ? À quoi son frère Louis XVI lui répond : Vous êtes bien le dernier des hommes de France qui devriez signer ce beau mémoire. Lorsque j'ai payé vos dettes, et cela plusieurs fois, était-ce avec l'argent de la noblesse ou celui du tiers-état ? Fin 1788, Jacob Nicolas Moreau note que non seulement on voulait la réunion des États, que tout le monde était d'accord là-dessus, mais qu'on insista pour qu'ils se tinssent à Versailles. Alors on attendait une quantité de députés qui allaient venir de toutes les provinces de France. Il fallait désigner à Versailles des maisons pour les recevoir. Il fallait les loger. Et Madame de Polignac, hein, parce qu'elle est toujours partout, elle décide de tout, elle est toujours là, la résolution de Madame de Polignac fut de traiter, c'est Jacob Nicolas Moreau qui parle, fut de traiter également bien tout le monde. Pourtant, elle crut que les membres du tiers ne trouveraient point mauvais que l'on ne les admît pas le soir à une table où les princes soupaient presque tous les jours. Le dîner fut le repas du tiers. On ne va pas mélanger les torchons et les ariettes tout de même. L'hiver de 1789 est particulièrement rude. La misère est partout. La fermentation est partout. C'est le sac de l'entreprise Réveillon à Paris, et ce sont beaucoup, beaucoup d'autres troubles qui éclatent dans tous les quartiers de la capitale, qui se remplit d'hommes affreux, attirés par l'espoir du pillage. Louis XVI, inquiet, et commence à se demander s'il a bien fait d'accepter ce doublement du tiers, qui lui apparaît soudain, sous un jour qu'il ne l'escomptait pas, et il masse autour de Paris des troupes. Le quartier général des troupes est à Versailles, et l'on voit Madame de Polignac et le comte d'Artois se promener parmi les troupes et discuter avec les officiers, et Madame de Polignac les inviter chez elle et leur offrir des rafraîchissements et des liqueurs. Je suis à la fin. Alors c'est affreux parce que je ne suis qu'à la moitié en réalité. C'est que effectivement, les Polignac, à partir de ce moment, vont se ranger résolument dans le parti ultra-réactionnaire. Et quoique émigrants et quoique en exil, ils vont faire partie de la contre-révolution à l'étranger. Et Jules de Polignac sera d'ailleurs l'ambassadeur des princes auprès de l'empereur d'Autriche. Et Madame de Polignac, comme vous le savez, mourra à Vienne.
Et dans votre livre.
Pardon.
Et tout est dans votre livre.
Voilà.
Et vous conduisez les livres.
Marie-Antoinette, j'aime Madame de Polignac, Madame de Lamballe aussi, j'aimerais lire une biographie sur Madame de Lamballe.
Oui, mais pour la technique.
Sandra.
Pour Sandra.
Qu'est-ce que c'est? Non, pas du tout, je me rends compte. je vais reprendre mon stylo. Oui. Par contre, merci beaucoup.
Merci.
Moi, je cette conférence très intéressante. Mais vous n'avez pas vu le temps passer?
Non, c'est affreux.
On était parti avec vous et Madame Polignac.
Je pensais me chronométrer, mais je n'y ai pas réussi. C'est pourquoi?
Mais si pourtant, en principe, j'en ai un, mais je n'arrive pas. J'ai dû le laisser quelque part.
Également cet été, vraiment très très bien, très beau, très bien écrit. Donc, mon prénom Johan avec un J, J-O-H-A-N.
Ah, c'est formidable.
Merci beaucoup.
Moi, c'est une signature, c'est Jean-Paul pour mon mari.
D'accord, une seconde.
Vas-y, c'est normal.
Oui.
Vous dépêchiez.
J'avais déjà remarqué que ça déchirait.
Merci beaucoup, merci pour votre offre.
Vas-y, Laurence. Je pose juste une question. Les charges étaient rémunérées de toute façon.
Exactement. Non, ça va. Mais, bien sûr. En fait, il y avait des émoluments qui correspondaient.
Ouais.
Je m'appelle Laurence.
Laurence?
Oui.
Ah oui, c'est ça, là. C'est ça.
It's from there. You have to go to that point.
On aurait pu vous écouter encore pendant des heures parce que vous avez traversé, vous traversiez 50
vous
ans.
Vous demandez votre avis. Vous en pensez quoi? C'est ma version de la robe de Gaulle dont vous avez parlé.
Ah, très jolie.
C'est vrai?
Ah oui.
Bah, vous avez l'œil de l'historienne.
Très jolie.
Ça vous semble.
Oui, vous l'avez faite vous-même?
Oui.
Bravo.
C'est historique. D'accord. Voilà.
Elle est très réussie.
Bon, bah, si vous la portez
ça bien. Très bien.
Merci.
Merci, madame. Bonsoir.
On va nous ouvrir. Je sais que le point indiqué à Georges et Charles. Là. D-A-H-A-N. Je voudrais aussi vous prendre en photo avec.
Ah, ah ben ça, c'est
que vous
le droit à l'image, ça dépend.
Oui, est-ce que vous permettez? Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'était très intéressant.
C'est très, très bien.
Magnifique. Ben, merci. Ce qui vous plaît de marquer, il n'y a pas de dédicace particulière. Comme cela vous vient. En tout cas, bravo, merci. Et j'ai hâte de lire votre livre parce qu'il remet, je crois, beaucoup d'idées en cause, vraiment. Et beaucoup d'éclaircissements. je regrette vraiment qu'on n'ait pas pu aller plus loin dans le déroulement historique et les questions qu'on aurait pu vous poser. Et j'espère que je vais trouver des réponses.
Oui. Et malgré tout, vous avez réussi à faire changer d'avis sur la Polignac, et c'est pas évident.
Disons la famille de Polignac, parce que c'est pas seulement Madame de Polignac. Moi, mon opinion me semble faite. Je mettais la belle-sœur en cause.
Oui, mais là,
c'est pas aussi...
C'est aussi simple.
Oui.
Et puis elle est bien, cette belle-sœur, moi, je vais dire.
Oui, mais oui.
Il n'y a pas de... Pareil que Madame, il n'y a pas de... d'indicateur. Voilà.
Au gré de votre fantaisie.
Mais vous m'avez passionné.